Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, deuxième période de l'époque coloniale, le régime britannique, vu d'ensemble. Une grande aventure vient de finir, une autre commence. Presque deux autres siècles d'histoire, dont il faut essayer de prendre une vue d'ensemble. Entre hier et aujourd'hui, entre le régime français et le régime britannique, n'imaginons rien d'une rupture artificielle. La même entité humaine continue sa vie, sur la même terre, dans le même environnement géographique. Un seul grand nouveau, la conquête anglaise, qui infléchit d'une courbe l'histoire du Canada français. Catastrophe qui s'insère, l'on sait par quelles incidences dans le contexte de l'histoire coloniale. Aux prises de possession des nouveaux mondes ont tôt succédé, entre nations colonisatrices, les périodes de rivalité. Le Canada a fait les frais de l'une de ces rivalités. Quelles répercussions à prévoir sur l'histoire qui s'en vient? La conquête, écrit un historien anglo-canadien, M. Lawrence, et ce mot, il l'a écrit à propos de 1760, c'est une forme d'esclavage, a type of slavery. Le mot va loin. N'y voit-on que le simple passage d'une métropole à une autre, un changement d'attache politique, économique, culturelle? Par cela seul, la conquête provoquerait déjà dans la vie d'un peuple colonial une redoutable perturbation. Mais 1760, qui est tout cela? Ne serait-il pas bien autre chose? Les Canadiens voyaient s'ouvrir devant eux un avenir plein d'inconnus, aussi troublant peut-on dire que jadis avait pu paraître à leur père le grand inconnu de l'affaire américaine. Qu'allait décider la France? Céderait-elle ce Canada qui tant de fois apparut si lourdement lui peser? L'Angleterre garderait-elle sa conquête? Et si elle la gardait, quelle place, quel traitement lui ferait-on au foyer britannique? Volontiers conquérants ont la tendance assimilatrice. L'assimilation, jusqu'où le nouveau maître la voudrait-il pousser? Grave question qui appelle de graves réponses. Serait-il téméraire de tenter par elle une préfiguration de l'histoire? Voici une poignée de colons, 12 000 familles peut-être abandonnées dans un coin de l'Amérique. Qu'attendre d'un peuple si minime? Qu'il cède, qu'il se laisse happer par le plus fort, et qui osera lui en faire crier? Il peut disparaître sans bruit et même sans honte, que d'aventures aussi magnifiques que celles de ces Français n'ont connu que ce lieu commun de l'histoire. Mais nous avons dit la vigueur d'âme de ce peuple de pionniers, son impatience de toujours, sa passion de liberté. Et nous sommes au lendemain de 1760. L'histoire coloniale s'achemine rapidement vers sa dernière phase, l'avènement des jeunes peuples à l'âge adulte. En Amérique, d'étranges souffles traversent le continent et inquiètent déjà les métropoles. Quelques probabilités s'ébauchent donc d'un Canada français, cramponné à une volonté de survie dans l'énergique refus de l'assimilation. Mais alors, qu'arrive-t-il? Tout aussitôt, une histoire rebondit, prend une grandeur austère, une beauté tragique. Mais continuons. En cette vie de résistants, serait-ce introduire encore trop d'a priorisme que d'y discerner le rôle dominant du facteur politique? Qu'on ne se méprenne point. Dans l'histoire en train de se dérouler, nous ne prétendons pas assigner à l'élément ou au facteur politique une prépondérance qui ne saurait être la sienne. Le conquis ne cessera pas de vivre en plénitude sa vie coutumière, vie économique, vie sociale, vie culturelle, vie morale et religieuse. Un peuple ne vit jamais sa vie qu'à la condition de la vivre totale. Mais repousser l'assimilation, survivre, qu'est-ce pour un groupe humain, sinon saisir, s'assurer en quelque mesure le gouvernement de sa vie et par conséquent placer à certains niveaux l'activité politique? Tenons compte au surplus des contingences ou du milieu où le peuple conquis vit et va vivre. Milieu des colonies anglo-américaines, milieu rapproché par la conquête et où déjà
l'on manie si bien l'arme politique, mais aussi milieu ou monde britannique, où toute la vie de la nation s'accroche à l'institution parlementaire. En ces conditions, quoi de si extraordinaire que pour défendre son être, le conquis saisisse l'arme la plus à sa portée et la plus efficace. Nous voulons bien qu'il ne cherche point la liberté politique, ni l'évolution politique pour elle-même, mais quoi de plus naturel que l'une et l'autre lui paraissent la condition première de toutes ses libertés, le moyen infaillible de résoudre tout le problème de son existence. Hypothèse gratuite que tout cela, préfiguration fantaisiste, nous n'avons plus à l'apprendre, l'histoire du Canada après la cession ne s'est pas bâtie sur une autre ligne. Ligne persévérante et voyante d'une évolution politique. Partie du régime de la colonie de la couronne, l'évolution ne s'arrête qu'à ce terme d'une province autonome dans un Canada indépendant. Ligne qui, parfois, se donne l'air de chercher son tracé, qui un jour ou l'autre s'avance avec fougue, mais qui jamais ne dévie. Et ce sera le paradoxe de cette histoire, qu'élevée en tutelle par ses anciens rois, dans une participation minime à son propre gouvernement, le Canada ait dû transporter la politique au sommet de son activité et à lui accorder, au moins dans l'ordre tactique, une sorte de primauté. En cette perspective, rien de plus facile maintenant que de partager en ces périodes le régime britannique. Deux se détachent nettement. La première, vers l'autonomie 1760-1848. La deuxième, de l'autonomie à l'indépendance 1848-1931. En chacune de ces parties, nous n'avons plus qu'à marquer les subdivisions ou étapes. Première partie vers l'autonomie, première période, régime provisoire, 1760-1764. Période hors cadre ou période de transition, si l'on peut dire, période d'occupation militaire par quelques détachements de l'armée conquérante, période d'attente où se décide en Europe le sort du Canada, période de recueillement où les miliciens, rentrés dans leur foyer, s'occupe à rebâtir le pays, à panser les plaies de la guerre. Deuxième période. Régime de la colonie de la couronne, 1764-91. Après le traité de Paris, premier énoncé de la politique de l'Angleterre à l'égard de sa conquête, politique d'assimilation que vient promulguer la proclamation royale du 7 octobre 1763. Dès lors, avec l'inauguration du nouveau régime, le Canada français décide de son orientation. Refus absolu de l'aliénation religieuse, culturelle qu'on lui propose. Ces 27 ans d'histoire peuvent se partager en deux. 10 années d'abord de revendications, ici même au pays et en Angleterre, revendications qui aboutissent en 1774 à l'acte de Québec. Étonnante législation du Parlement de Londres, qui abroge la proclamation royale du 7 octobre 1763, et pour ce faire, pratique de larges brèches dans les lois fondamentales du royaume. En bref, l'acte de Québec reconnaît à un peuple catholique et français le droit à l'existence dans l'Empire britannique. Une liberté reste à conquérir, la liberté politique, qui mettra fin au régime autoritaire de la colonie de la couronne. Ce sera l'affaire des prochains 17 ans. Une imparfaite exécution de l'acte de Québec, un synchronisme historique d'une rare vigueur, des courants ou confluents d'idées puissants, révolte américaine, révolution française, ces influences diverses, renforcées en Amérique par une maladroite compression des libertés coloniales, vont balayer un régime périmé. Troisième période, régime parlementaire, 1791-1848. Régime accueilli avec enthousiasme et qu'on disait une copie du régime de la métropole. En réalité, régime bâtard et décevant. Régime de la colonie de la couronne, maintenu sous le masque parlementaire. Parlement sans prise véritable sur l'exécutif. Les suprêmes pouvoirs perpétués entre les mains de gouverneurs autocrates, sans responsabilité politique dans la colonie, responsable au seul gouvernement impérial. Forme de parlementarisme qui pouvait encore convenir à l'Angleterre aristocratique du 18e siècle, mais en plein désaccord avec l'esprit démocratique du jeune continent. Les suites sont à prévoir. Agitation continue grossissante dans toutes les provinces de l'Amérique britannique. Agitation plus vive dans le Bas-Canada français, qui a plus à souffrir dans sa liberté et dans sa vie. En 1837-38, insurrection sanglante dans les deux Canadas. En 1841, pour étouffer l'agitation, vague promesse d'autonomie de la part de Londres, union forcée des deux Canadas et tentative d'angliciser le Canada français. Politique illusoire. C'était rapprocher dangereusement réformistes ou libéraux des deux provinces les plus populeuses et doubler la force des revendications coloniales. En 1842 d'abord, puis définitivement en 1848, à la faveur d'un autre synchronisme historique et par la ténacité du Canadien français Louis-Hippolyte Lafontaine, habile manœuvrier autant comme d'État, la province du Canada gagne son autonomie. Du même coup, le Canada français gagne la sienne. Un fait s'est imposé. Point de gouvernement stable, ni même viable, sans la collaboration des Canadiens français. Appel leur a donc été fait comme groupe national, as a race and as a people. Deuxième partie, de l'autonomie à l'indépendance, 1848-1931. Ici encore, deux étapes. Une première de 1848 à la Confédération, une seconde de la Confédération au statut de Westminster. L'année 1848 avait apporté l'autonomie. Autonomie jugée bientôt insuffisante et par le haut et par le bas Canada. En dépit de leur tournure ou de leur esprit fédératif, les institutions de 1841 restent d'essence unitaire. Un seul et même parlement légifère pour les deux provinces. Malaise congénital qui multiplie de part et d'autre mésententes et brouilles et qui entraîne la dissolution de l'Union. Point d'autre solution que de se rabattre en 1837, sur une fédération des provinces de l'Amérique du Nord britannique. C'était l'extension du principe fédératif à deux autres provinces anglaises, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. En 1867, le Bas-Canada, devenu le Québec, recouvre, comme en 1791, son individualité politique. La bataille de l'autonomie paraît pour lui définitivement gagnée. Il lui reste à parfaire son autonomie intérieure, par l'autonomie économique, sociale, culturelle, et à défendre son autonomie politique et nationale contre les empiètements du pouvoir central. Et comme la fondation du Grand Canada s'accompagne d'un phénomène de dispersion de la race française d'un océan à l'autre, le Québec aura aussi à défendre contre l'oppression des provinces anglophones les droits naturels et constitutionnels des minorités catholiques et françaises. Enfin et surtout, après le début du XXe siècle, il lui reste à défendre sa propre autonomie et celle de tout le Canada contre les retours offensifs de l'impérialisme britannique. Bataille qui conduira le pays à l'indépendance et où le Canada français, pour son esprit essentiellement canadien, jouera un rôle d'avant-garde. En cette histoire trop apparemment politique, sans doute, faut-il faire attention de ne pas négliger tout ce qui la conditionne et tout ce qu'elle-même conditionne. Rien de plus facile, du reste, que d'observer les réactions de chacun de l'évolution politique sur les autres formes de la vie collective, et réciproquement, les réactions d'une vie devenue plus robuste, plus consciente, pour un effort vers de nouveaux gains de liberté. Vie montante, et qui pour cela même, ne peut pas ne pas demeurer organique. Chacun peut constater également comme entre la première et la seconde portion de l'histoire du Canada, la ressemblance et l'unité s'établissent. Le régime français nous a paru dominé par une fatalité tragique, disproportion toujours énorme entre l'homme et sa tâche, tâche d'un peuple forcé de bâtir seul ou presque seul son pays et sa vie, chargé d'un empire dont le poids l'écrase. D'où une histoire d'une tension extrême. Après 1760, même paysage historique, même constante, disproportion aussi considérable entre l'œuvre et l'homme. Bâtir sa vie dans un isolement encore plus absolu sur un continent d'où la France est expulsée. Dans une Amérique anglo-saxonne, maintenir un îlot de latinité. Survivre, catholique et français, dans un empire britannique devenu la première puissance du monde. Destin de grands labeurs et de grands risques, mais qui rend un peuple ce qu'il coûte.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française.